Je vais donc vous parler du traitement des formes avancées de cancer bronchique non à petites cellules chez la personne âgée. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes âgées avec un cancer du poumon tient à la conjonction de deux phénomènes. D'une part, à un accroissement de l'espérance de vie. Je ne sais pas combien elle est au Liban, mais en France, elle est de 84 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. Et le deuxième phénomène, c'est que plus on vieillit et plus le système immunitaire se dérègle et plus on fait de cancer. Ce qui fait que l'âge médian de survenue d'un cancer du poumon se situe selon les pays entre 65 et 69 ans. Et en tout cas, au moins un tiers des patients ont plus de 70 ans au diagnostic. Alors pourquoi je dis entre 65 et 69 ? Eh bien, ça dépend selon les registres où on parle des cas de cancer suspectés ou des cas de cancer prouvés. Parfois, chez les gens très 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 âgés, surtout si on ne pense pas pouvoir mettre en œuvre un traitement, on ne va pas forcément embêter le malade pour faire un diagnostic histologique. Et puis, ça dépend aussi des politiques de santé des pays. Alors, quelle est la définition d'une personne âgée ? Est-ce que c'est plus de 65 ans, plus de 70 ans, plus de 75 ans ? Les trois seuils peuvent être valables. 65 ans, c'est souvent pour les études épidémiologiques. 70 ans, ça commence à être le cas pour les traitements. Et 75 ans, là, on est sûr qu'il faut adapter le traitement. Et en tout cas, c'est toujours 10 ans de plus que l'orateur. Ça, c'est un principe. Et il faut bien dire que les personnes âgées sont sous-représentées dans les essais cliniques. On va le voir plus précisément. Alors, nous sommes au Liban. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux hommes de spectacle très célèbres en France. Vous avez à votre gauche Henri Salvador, qui est un chanteur qui a chanté jusque 90 ans. J'aurais pu mettre Charles Aznavour. Et à votre droite, vous avez Serge Gainsbourg, qui était également un chanteur, cinéaste, provocateur. Et si je vous demande lequel des deux est le plus âgé sur la photo, je pense que vous me direz c'est Serge Gainsbourg. Or, sur la photo, Henri Salvador a 90 ans et Serge Gainsbourg a moins de 60 ans. Donc, vous voyez la différence entre l'âge réel et l'âge physiologique. Je vous disais donc que la proportion de patients âgés qui sont inclus dans les essais cliniques est très inférieure à ce qu'ils représentent dans la maladie. Par exemple, si on prend des essais, là c'est tous les cancers venus, vous avez dans les barres plus claires, vous avez la proportion de patients qui ont un cancer. Donc là par exemple, à plus de 65 ans, vous avez, ils représentent 60% de la population des cancers et il n'y a que 36% qui est inclus. Et si vous prenez à plus de 75 ans, ils représentent 31% de la population des cancers et il n'y en a que 9% inclus. Et donc, on voit bien qu'il y a une sous-représentation des personnes âgées. Maintenant, si on s'intéresse aux poumons plus particulièrement, vous voyez que la différence est extrêmement marquée entre ce que les personnes âgées représentent parmi les patients qui ont un cancer du poumon et leur inclusion dans des essais thérapeutiques. Il y a donc une réelle discordance. Alors pourquoi cette participation inférieure à celle des gens plus jeunes aux essais cliniques ? Eh bien, vous savez que pour un essai clinique, il y a des critères d'inclusion qui sont parfois très restrictifs, et les personnes âgées ont souvent beaucoup de comorbidités. Les médecins et les gens eux-mêmes ont peur de la toxicité potentielle des traitements. Les critères d'exclusion souvent vont concerner les personnes âgées. Il y a des facteurs éducatifs. Il y a la propre représentation chez une personne âgée. Elle ne peut pas parfois comprendre que le médecin ne sache pas ce qui est bien pour elle et fasse appel à un essai clinique. Il y a difficulté d'accès pour certaines personnes âgées à des institutions spécialisées. Le rôle des proches qui vont influencer la personne âgée et l'attitude des médecins sur laquelle on va revenir. La conséquence de tout cela, c'est que souvent les personnes âgées sont sous-traitées et il y a des biais médicaux, personnels ou familiaux au sujet du diagnostic et du traitement. Un certain nihilisme de la part des médecins qui a longtemps prévalu vis-à-vis des personnes âgées, la peur des toxicités à cause des comorbidités et de la polypharmacie, on va y revenir. Et puis surtout, dans la famille, il y a une fausse croyance dans la lenteur d'évolution des cancers chez les personnes âgées. Beaucoup de gens croient qu'un cancer évolue moins vite chez quelqu'un d'âgé et que donc c'est peut-être pas la peine de faire un traitement. C'est quelque chose contre quoi on a beaucoup de mal à lutter. Et du coup, le pronostic des personnes âgées est mauvais, ce qui renforce l'attitude vis-à-vis de nihilisme vis-à-vis de ce cancer. Quand on regarde aux États-Unis, pays développé, la proportion des patients âgés de 65 ans et plus qui ont une chimiothérapie, eh bien, vous voyez que 20% seulement des patients âgés de plus de 65 ans reçoivent une chimiothérapie entre 1997 et 2002, ce qui est vraiment très peu, et la plupart reçoivent une association de platine et de taxane, et puis il y a d'autres associations possibles. Donc là on est en deuxième ligne, il y en a encore moins. Alors les personnes âgées ont quelques spécificités dont il faut tenir compte avec des modifications biologiques et on va parler brièvement de l'évaluation gériatrique. Les modifications biologiques liées à l'âge, c'est une augmentation de la masse graisseuse par rapport à la masse musculaire et donc une diffusion différente de la chimiothérapie. Il y a également une réduction de la partie aqueuse de l'organisme. La fonction rénale diminue avec l'âge, de même que la fonction hématopoïétique, de même que la fonction hépatique. Surtout, il y a beaucoup de comorbidités et les personnes âgées prennent énormément de médicaments. Et j'insiste toujours à ma consultation pour que les gens me rapportent les boîtes de médicaments parce que souvent ils ne connaissent pas les noms. Ça n'a rien à voir avec l'âge, en tout cas en France. Et il faut vraiment se faire rapporter les boîtes des médicaments. Les conséquences, c'est qu'il y a une pharmacodynamie très différente des drogues et une potentielle augmentation de la toxicité de la chimiothérapie. Alors la polypharmacie, qu'est-ce qu'on appelle polypharmacie ? En Europe, c'est le fait de prendre plus de 5 médicaments par jour. Et aux États-Unis, on considère que c'est aussi le fait de faire de l'automédication. Il peut y avoir des interactions, même avec des thérapeutiques alternatives, ce qu'on appelle en France les médecines douces, je ne sais pas comment on les appelle au Liban, le nom de douche que l'idée que les gens s'en font, mais il peut y avoir des interactions, il faut donc s'y intéresser. Et si on prend les patients âgés, en tout cas aux États-Unis, eh bien, ils prennent en moyenne 9,1 médicaments par jour si on compte les thérapeutiques alternatives dedans. Pour évaluer une personne âgée, le performance status n'est pas suffisant et on a recours à une évaluation gériatrique. Et lorsque cette évaluation gériatrique est complète, je vous l'ai mis ici, eh bien, ça prend beaucoup de temps. Ça prend facilement entre une heure et demie pour apprécier l'état d'un patient. Et il existe, du coup, des index simplifiés qui permettent à un pneumologue de bonne facture d'y arriver. Et en tout cas, il faut s'intéresser non seulement aux performances status, ça n'a rien de nouveau, mais ce qu'on appelle aussi aux Activity Daily Living Index, et notamment l'IADL, qui est l'Instrumental Activity Daily Living, qui, par exemple, comporte dans les questions « Est-ce que la personne est capable de téléphoner ?» En France, les gens très très âgés n'ont pas eu l'habitude du téléphone depuis le plus jeune âge et sont parfois un peu désemparés devant un téléphone, ou bien elles entendent mal, et donc d'avoir le téléphone ne sert pas à grand chose, ils ne vont pas entendre la sonnerie, et quand on leur parle, ils ne vont pas comprendre ce qu'on leur dit. Donc quelqu'un qui a une chimiothérapie et qu'on ne peut pas joindre par téléphone, ça pose un problème. Il y a d'autres aspects hein, dans ce Instrumental Activity Daily Living, mais je vous en ai donné un exemple. Vous voyez qu'il y a les comorbidités, il y a le statut socio-économique. Alors en France, ça ne joue pas parce que tout est remboursé à 100%, mais il y a beaucoup de pays où ça va jouer dans le traitement qu'on pourra ou pas donner. Il y a les fonctions cognitives, ça c'est très important. Le MMS est quelque chose de bien connu et il y a la dépression de la personne âgée qui est souvent très mal évaluée parce qu'on y prête moins attention que chez quelqu'un de plus jeune. J'en ai déjà parlé, les médicaments qu'ils prennent, l'état nutritionnel c'est important, souvent subordonné à l'état dentaire. Pardon. Et puis, il y a ce qu'on appelle les syndromes gériatriques, la démence, les chutes, la maltraitance également, dont il faut prendre en compte. Et tout cela va aboutir à une classification de la personne âgée en trois groupes. C'est ce qui est les groupes qui ont été proposés par Balducci. Et vous avez le groupe 1 qui est le plus favorable, il n'y a rien qui empêche de traiter la personne âgée comme si elle était plus jeune et donc on va lui faire un traitement à visée de prolongation de la vie. Il y a le groupe 2 qui est le plus difficile parce qu'il faut le diviser en deux, soit l'espérance de vie que vous estimez chez ce patient est supérieure à celle que vous donnera la maladie cancéreuse et à ce moment-là, vous allez au moins essayer de traiter correctement et vous allez évaluer la tolérance du traitement. Ensuite, si l'espérance de vie, de par l'état général de ce patient, est inférieure à ce que laisse espérer le cancer, eh bien, il vaut mieux ne rien faire. Et c'est aussi le cas du groupe 3, où la personne âgée est tellement dépendante qu'on ne peut pas envisager de traitement spécifique. Alors voyons la chimiothérapie que l'on peut proposer chez les personnes âgées qui ont un cancer bronchique non à petites cellules avancées. Et voyons d'abord les analyses rétrospectives en sous-groupe. C'est un essai bien connu de l'ECOG qui a comparé cisplatine étoposide et cisplatine paclitaxel dans le cancer bronchique non à petites cellules métastatiques. Et vous voyez là la répartition des patients qui avaient moins de 70 ans et ceux qui avaient plus de 70 ans. Vous voyez qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes en ce qui concerne l'âge, le sexe. Décidément, je n'y arrive pas, voilà. Le performance status, la perte de poids et le stade. Par contre, il y avait une tendance qu'on retrouve régulièrement à avoir plus d'épidermoïdes. Vous savez que dans les cohortes des patients qui sont nés avant les années 50, il y avait beaucoup d'épidermoïdes parce que les gens fumaient des cigarettes de tabac brun sans filtre. Et si on regarde la différence, on constate qu'il y a plus de maladies cardiovasculaires, plus de maladies respiratoires, une tendance à plus de comorbidités en général, et surtout, pardon, le rond n'est pas au bon endroit, ils prennent beaucoup plus de médicaments, et en revanche, moins d'analgésiques, et là aussi, il y a un manque d'attention à la douleur chez les patients âgés qui ne l'expriment pas comme quelqu'un de plus jeune. En revanche, quand on regarde la survie selon l'âge dans cet échec particulier, eh bien, il n'y a pas de différence significative entre les gens âgés et les gens plus jeunes. Un autre essai qui est celui de Lilienbaum en 2005, est-ce qu'il faut faire un doublé à base de platine, ce qui est la recommandation générale pour le traitement des métastatiques? ou faire un seul agent, eh bien, toujours pareil, dans cet essai, il y avait un certain nombre, à peu près 155 patients âgés de plus de 70 ans et beaucoup plus âgés de moins de 70 ans. Si on regarde le taux de réponse et la survie, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Je vais passer sur cet essai parce que le temps passe. Et juste pour vous dire que le problème de ces comparaisons que l'on fait à l'intérieur d'un essai qui était dédié à la fois aux gens jeunes et aux gens âgés, eh bien, c'est qu'il y a d'évidents biais de sélection. Les patients de plus de 70 ans que vous mettez dans un essai qui est adapté aux gens de plus de 18 ans, eh bien, c'est qu'ils sont en particulière bonne santé, puisque vous allez estimer que les critères d'inclusion sont remplis. Et en fait, même dans les essais qui acceptent les personnes âgées, ça ne va généralement pas au-delà de 75 ans. Et donc, vous ne pouvez pas en tirer des conclusions pour la population générale. Et il faut faire des essais dédiés aux personnes âgées. Et le premier essai qui a été fait pour les personnes âgées, c'est fait par Cesare Gridelli en Italie. Il a comparé la survie des patients âgés à qui ont donné de la vinorelbine ou des soins de support. Et il a démontré que la vinorelbine faisait mieux que les soins de support, avec une médiane de survie à 28 semaines contre 21, et surtout une survie à un an de 32% contre 14%. Si vous vous rappelez les résultats de la méta-analyse qui avait été publiée dans le BMC en 95, chimio versus pas chimio chez toute la population des patients inclus dans les essais cliniques, eh bien, on avait exactement les mêmes résultats en survie. Donc, chez les personnes âgées, ça a été la démonstration qu'il faut les traiter. Alors, est-ce que la vinorelbine en agent en drogue est le seul standard? Eh bien, au Japon, ils ont tendance à utiliser le docetaxel et ils ont fait un essai comparant la vinorelbine au docetaxel. Malheureusement, un nombre de patients insuffisant pour conclure à autre chose qu'au taux de réponse. Et eux, ils trouvent un meilleur taux de réponse au docetaxel, qui est d'ailleurs donné à la dose de 60 mg mètre carré et pas 75 mg mètre carré comme chez nous. Et également une meilleure survie, mais ça n'est pas significatif, il n'y avait pas assez de patients pour cela. Quoi qu'il en soit, les Japonais ont une autre pharmacodynamie que nous, et je ne conseillerais certainement pas de faire du docetaxel aux personnes âgées. La toxicité y est vraiment trop importante. Alors, est-ce qu'on peut faire un doublé plutôt qu'un seul agent, par exemple associer gemcitabine vinorelbine versus vinorelbine seul? Eh bien, il y a eu deux essais, un de Fraschi, mais avec seulement 120 patients, qui montre un avantage au doublé. Mais vous voyez que l'essai de Cesare Gridelli, qui porte sur 700 patients avec un bras vinorelbine, un bras gemcitabine et un bras avec le doublé, eh bien, il n'y a aucune différence significative de survie. Et donc, on peut conclure qu'un doublé par vinorelbine, gemcitabine ne fait pas mieux que l'un ou l'autre des agents tout seul. Et c'est dans ce contexte que nous avions lancé une étude comparant chez des patients cette fois-ci vraiment âgés de 70 à 89 ans avec un PS de 0 à 2 et une évaluation gériatrique, soit une monothérapie par vinorelbine ou gemcitabine, soit une bithérapie par carboplatine et paclitaxel hebdomadaire avec à la progression dans les deux bras de l'erlotinib. Et voilà le schéma de l'étude. Dans le bras agent monothérapie, soit vinorelbine, soit gemcitabine, donné 2 semaines sur 3 aux doses habituelles. Et dans le bras bithérapie, nous avions carboplatine toutes les 4 semaines et paclitaxel toutes les 3 semaines, 3 semaines sur 4. Ici, il y avait 4 cycles et là, il y avait 5 cycles pour arriver à une durée totale de traitement qui soit la même. Nous avions dans cette étude 3/4 de patients qui étaient de sexe masculin. Un âge médian, vous voyez que cette fois-ci, c'était vraiment des patients âgés, puisque l'âge médian était à peu près à 77 ans. La plupart avaient un bon performance status. Il y avait la moitié d'adénocarcinome, mais ce que je vous disais tout à l'heure, si on prend les gens plus jeunes, on a beaucoup plus d'adénocarcinome que ça. Et donc, il y avait anormalement beaucoup d'épidermoïdes. Ce qui est important, c'est la proportion de non-fumeurs qui est relativement importante, puisque c'est 20% des patients. Et ça montre que quand on vieillit, il n'y a pas que le tabac, il y a aussi le simple fait de vieillir qui devient un facteur de risque de cancer du poumon. Lorsqu'on compare la réponse entre la monothérapie et la bithérapie, il y a un avantage évident à la bithérapie qui donne 27% de réponse contre 10% de réponse. Et il y a un taux de progression qui est inférieur avec la bithérapie. La toxicité hématologique est bien sûr beaucoup plus importante avec la bithérapie. Vous le voyez ici, si on prend les grades 3 et 4 qui sont évidemment les plus dangereux, il y a beaucoup plus de toxicité qu'avec la monothérapie. Il y a un peu plus de neutropénie fébrile. Il y a également plus d'anémie, plus de thrombopénie. Tout cela, on pouvait s'y attendre. Lorsqu'on prend la toxicité non hématologique, c'est surtout l'asthénie, l'anorexie qui sont plus importantes dans le bras bithérapie. Lorsqu'on regarde la survie sans progression, vous voyez qu'il y a une différence énorme entre la bithérapie et la monothérapie, puisqu'elle est de 6 mois dans la bithérapie, 2,8 mois dans la monothérapie, et également, vous voyez la différence très importante à 1 an, et ça se traduit par un gain en survie qui est très important, puisque la médiane est à 10 mois dans le bras avec carboplatine, elle est à 6,2 mois dans le bras monothérapie, et donc avec un hazard ratio qui est à 0,64, hautement significatif. Si on analyse tous les sous-groupes, vous voyez que presque tous les sous-groupes bénéficient de la bithérapie, même les PS2. Voilà, ils sont là. Donc vous voyez que presque tous les sous-groupes bénéficient de cette bithérapie, sauf ceux qui ont un MMS, c'est-à-dire une évaluation des fonctions cognitives qui est inférieure ou égale à 23 sur 30. Il n'y a pas de bénéfice de la bithérapie. Pardon. À la suite de cet essai, les recommandations qui ont été émises par la société américaine, le collège des pneumologues, eh bien, est que chez les patients âgés de 70 à 79 ans, bien que dans notre essai nous y avions jusqu'à 89 ans, mais eux ont considéré que c'était plus conservateur de mettre 79 ans, eh bien, le traitement à privilégier, c'est une bithérapie avec du carboplatine toutes les 4 semaines et du paclitaxel hebdomadaire. Faut-il faire une thérapeutique de maintenance chez les personnes âgées? Tout d'abord, combien de cycles d'induction faut-il donner? Eh bien, il n'y a pas eu d'essai comparateur chez les gens âgés. Dans notre essai, c'était 4 pour la bithérapie. Dans un essai mené également en France, les EOGIA, c'était également 4. Dans des essais MILES 3 et MILES 4 menés en Italie, c'est 4. Et dans l'essai que nous faisons actuellement de maintenance, c'est 4. Et c'est donc le chiffre le plus souvent retrouvé. Si on prend l'essai Paramount, qui est un des essais de maintenance les plus connus, publié par Pazares, on voit que la maintenance, mais toujours en analyse de sous-groupe, et je vous ai dit qu'il fallait faire très attention au biais de sélection des patients, montre que les gens âgés bénéficient autant que les gens plus jeunes d'une maintenance. Nous avons cependant voulu faire un essai dédié aux personnes âgées en reprenant comme bras standard la bithérapie qui avait donné le meilleur résultat et chez les patients répondeurs ou stabilisés, une randomisation entre une surveillance et le fait de donner de l'erlotinib à la progression. Et les patients surveillance et un bras avec maintenance, soit par pemetrexède pour les non-épidermoïdes, soit par gemcitabine pour les épidermoïdes, avec à la progression également de l'erlotinib. Donc c'est réellement un essai de maintenance qu'on appellerait de switch maintenance. J'ai décidément un petit peu de mal, voilà. Qu'en est-il de la deuxième ligne pour les patients âgés? Il n'y a pas eu d'essai spécifique aux personnes âgées pour la deuxième ligne permettant de dire est-ce qu'il faut mettre de l'erlotinib, du docetaxel ou du pemetrexed. Mais dans l'essai BR21, qui est l'essai canadien qui comparait erlotinib à placebo en deuxième ligne après un doublé à base de platine, eh bien, lorsqu'on regarde les courbes de survie pour l'erlotinib et pour le placebo chez les personnes âgées et chez les patients plus jeunes, il n'y a pas de différence significative et le bénéfice de l'erlotinib est le même en progression-free survival ou en survie globale. Dans notre essai initial, nous avions mis de l'erlotinib en deuxième ligne obligatoire et finalement, près de 65% des patients ont pu avoir de l'erlotinib en deuxième ligne. La durée médiane du traitement était de 2 mois. La médiane de survie après la deuxième ligne était de 6,8 mois. Et pour ceux qui avaient eu initialement le doublé, et finalement, c'est très proche de ce qui avait été observé dans l'essai BR21. Lorsqu'on regarde les facteurs pronostiques de cette deuxième ligne dans l'essai, il y avait le PS initial qui reste un facteur pronostique, l'histologie avec un avantage à l'adénocarcinome, le fait de n'avoir jamais fumé, ça c'est bien connu, et le fait de ne pas avoir perdu plus de 5% de poids initialement. Qu'en est-il des thérapies ciblées? Rapidement, le bevacizumab, l'essai de Sandler, publié en 2006, qui était une randomisation entre carboplatine, taxol toutes les 3 semaines avec ou sans bevacizumab. Eh bien, lorsqu'on regarde chez les personnes âgées, il n'y a pas d'avantage en ce qui concerne la survie. On retrouve un petit avantage en ce qui concerne la survie sans progression, mais la survie globale, il n'y a pas d'avantage au bevacizumab. Dans l'essai AVAIL, qui est l'essai un peu plus européen, eh bien, Natasha Leigh avait fait une analyse du devenir des patients âgés et il n'y avait pas de différence de réponse selon les bras chez les patients âgés, et surtout il n'y avait aucune différence de survie entre les 3 bras chez les patients âgés, et la recommandation actuelle est de ne pas faire de bevacizumab chez les patients âgés. Qu'en est-il des TKI chez les patients qui ont une mutation de l'EGFR? On a une étude publiée en 2012 avec 31 patients âgés de plus de 75 ans et dont vous voyez ici les caractéristiques qui sont habituelles, une prédominance d'adénocarcinome et de non-fumeurs. Et vous voyez des résultats qui sont comparables à ceux qu'on observe chez les patients plus jeunes, 71% de réponse et une médiane de survie qui est à 19 mois. Donc c'est vraiment la même réponse que chez les patients plus jeunes. Et la tentation qu'ont certains, c'est de dire, j'ai une personne très âgée qui a 90 ans, c'est une femme, elle n'a jamais fumé, est-ce que je ne peux pas, sur présomption, lui donner tout de suite un inhibiteur de TKI sans faire tous les examens qu'on doit faire? Et notre collègue Nicolas Girard avait fait une ABAC pour montrer justement quelle était la probabilité de mutation chez une personne de plus de 90 ans. Donc voilà, 90 ans, ça se situe ici, et ça lui conférait à peu près, ça se situe là, ça lui donnait 15 points. Le fait d'être une femme, ça lui donnait 8 points. Le fait de n'avoir jamais fumé, ça lui donnait 100 points. Et le fait d'avoir un adénocarcinome de type papillaire, ça lui donnait à peu près 30 points. D'avoir un stade 4, ça lui donnait à peu près 9 points. Et bref, le total de points faisait une probabilité de 80%, j'ai tout de suite fini, d'avoir cette mutation. Néanmoins, les recommandations sont de ne pas faire de traitement à l'aveugle. Alors, quels sont les messages pour la maison? Les personnes âgées peuvent bénéficier d'un traitement d'induction par un doublé à base de carboplatine et non pas de cisplatine, avec un nombre de cycles de 4. La maintenance, on ne sait pas. Les thérapies ciblées, pas de bevacizumab, mais en revanche, chez les patients mutés, on peut parfaitement donner des inhibiteurs de tyrosine kinase. Pour la seconde ligne, il n'y a pas de recommandation spécifique, mais l'erlotinib est faisable. Et je terminerai, puisqu'en France, on veut supprimer le latin de notre enseignement, par cette phrase de Cicéron dans son traité de la vieillesse : personne n'est si vieux qu'il ne puisse imaginer vivre encore un an. Je vous remercie.